France Info.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur France Info, à la radio et à la télé, le canal 16 de la TNT à la une. Ce soir, la France à nouveau au chevet de l'Ukraine, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, tous deux à l'Elysée. Peut-être un tournant dans l'unité de l'Europe et le soutien des États-Unis. Un échange est prévu demain avec Donald Trump, alors que Vladimir Poutine, lui, s'affiche en Chine avec ses alliés. Le président français sur tous les fronts, il appelle ses ministres à se battre jusqu'au bout pour éviter la chute du gouvernement. Pas de concession pour l'instant de la part de François Bayrou. Quelle mobilisation pour le 10 septembre, jeudi prochain, l'appel à tout bloquer. Les renseignements territoriaux tentent d'évaluer l'ampleur des manifestations et des blocages. Ils parlent pour l'instant de 100 000 participants dans toute la France. Et puis Emmanuel Carrère, David Diop ou encore Maria Pouchet parmi les noms de la première sélection du Goncourt. Les prix littéraires font-ils toujours autant vendre? Guerre des maisons d'édition ou vrai coup de cœur en cette rentrée littéraire? On en débat avec nos informés. Bonsoir Elisabeth Pinault.
Bonsoir.
Correspondante à l'Elysée et à Matignon pour l'agence Reuters. Sylvain Courage est également avec nous. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs. Bonsoir Séverin Husson.
Bonsoir Victor.
Directeur adjoint de la rédaction de La Croix. Et bonsoir Guillaume Lagan.
Bonsoir.
Spécialiste des questions de défense et de géopolitique. Votre nouveau livre, Apparaître, géopolitique de l'Europe aux presses universitaires de France. Après l'Alaska, après Washington, ces dernières semaines, c'est donc à Paris que la question ukrainienne revient sur le devant de la scène. Volodymyr Zelensky est à l'Elysée ce soir, réunion de travail et dîner avec Emmanuel Macron.
Nous sommes prêts, nous, Européens, à apporter les garanties de sécurité à l'Ukraine et aux Ukrainiens le jour où une paix est signée. C'est l'engagement que nous avions pris à Washington. Voilà, ce travail de préparation est achevé et il nous permet de dire que nous sommes prêts à une paix robuste, durable pour l'Ukraine et pour les Européens.
Emmanuel Macron ce soir à l'Elysée aux côtés donc du président ukrainien pour cette conférence de presse à la veille du rendez-vous de la coalition des volontaires et puis d'un entretien aussi à distance avec Donald Trump. Guillaume Lagan, les garanties de sécurité pour l'Ukraine, on pourra rappeler d'ailleurs ce que cela signifie. Le fait qu'elle soit prête, dit Emmanuel Macron, c'est une avancée importante.
Oui, c'est l'aboutissement d'un processus qui a maintenant plusieurs mois de discussion entre les Occidentaux, entre les Européens et les Américains pour apporter à l'Ukraine un soutien à la fois financier, matériel et aussi en déploiement de soldats qui lui permettrait d'éviter une nouvelle attaque russe. Donc c'est une avancée dans le sens où ces discussions ont pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et que là, on semble s'acheminer vers un consensus entre les Européens, en tout cas quand on dit les Européens, les Français et les Anglais principalement, et quelques autres nations satellites autour, et puis les Américains dont on attendait un soutien en termes de renseignement, en termes de protection pour nos propres soldats. Donc c'est une avancée, mais comme l'a dit le président à l'instant, c'est conditionné quand même à un accord de paix. Il ne parle pas d'ailleurs de cessez-le-feu, il parle d'accord de paix, ce qui est un petit recul quand même par rapport à ce qui était initialement envisagé. Et donc, on est encore dans le futur, parce que pour l'instant, la guerre, elle se poursuit.
Accord de paix qui interviendra ou pas, on ne sait pas. Vladimir Poutine continue à souffler, on va dire, le chaud et le froid. Depuis la Chine, on reparlera de ce sommet important avec ses alliés. Il dit à la fois qu'il continue son offensive, et puis qu'en même temps, il est prêt qu'il y ait une lumière, en quelque sorte, au bout du tunnel. C'est de la communication ?
Bah alors, en fait, là, il faut remonter à il y a quelques semaines au sommet d'Anchorage, en Alaska, où l'objectif du président Trump, c'était d'obtenir de
avec
monsieur,
la fameuse rencontre,
voilà, la fameuse rencontre donc, entre monsieur Poutine. Trump et monsieur Poutine dans l'État d'Alaska. L'objectif était d'obtenir un cessez-le-feu, donc un arrêt des combats, et à partir de là, il y aurait une négociation pour aboutir à un accord de paix. Or, monsieur Poutine n'est pas intéressé par un cessez-le-feu, notamment parce que sur le terrain militaire, il a plutôt l'avantage aujourd'hui. Et donc, il n'est pas fermé à des négociations de paix. Alors, c'est une situation qui n'était pas du tout celle que les Européens attendaient, qui a pu exister dans l'histoire, on remonte à quelques décennies. La guerre du Vietnam, elle s'est poursuivie jusqu'à la fin. L'accord de paix, en fait, s'est terminé. La guerre s'est terminée alors que l'accord de paix était signé. Bon, c'est pas nécessairement un très bon exemple pour le cas de l'Ukraine, parce que je vous rappelle que le résultat, c'est que le Sud-Vietnam est tombé. Donc cet accord de paix qui serait négocié en même temps que les combats se poursuivent, c'est pour l'instant une très mauvaise affaire pour l'Ukraine.
Elisabeth Pinault, vous étiez tout à l'heure à l'Elysée, correspondante pour l'agence Reuters. Vous avez assisté à cette conférence de presse d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron, on le rappelle, qui garde le leadership européen dans ce dossier ukrainien.
Oui, cette réunion est la suite de la séquence Anchorage-Washington. Hein. On se souvient que Emmanuel Macron et les dirigeants européens sont allés voir Donald Trump dans le bureau ovale il y a 2 semaines. Donc oui, une fois de plus, ça se passe à Paris. Volodymyr Zelensky, tout de noir vêtu, est arrivé à l'Élysée tout à l'heure à 19h. C'était juste une déclaration, hein, pas une conférence de presse. Emmanuel Macron a été très bref. Il a dit « nous sommes prêts », mais il n'est pas entré dans les détails. On se doute bien que c'est que le diable est
le travail aura lieu demain aussi.
Exactement.
Avec les partenaires européens.
Donc demain, il sera rejoint par de nombreux chefs d'État à Paris ou en visioconférence. Ursula von der Leyen sera présente, mais par exemple, Friedrich Merz, le chancelier ne sera pas là. Il sera en revanche à Évian demain soir. Il y a également une réunion, donc ils pourront se voir à ce moment-là. Et Keir Starmer, le Britannique, élément clé évidemment, devrait être à Paris. Ils se réunissent, ils discutent, et puis à 14h demain, ils auront Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron et quelques autres qui ne sont pas précisés pour l'instant auront Donald Trump au téléphone et pourront lui rendre compte de la réunion de demain matin. De nombreuses questions sont sur la table, évidemment, mais pour discuter dans une guerre comme celle-ci, il faudrait être deux, et le grand absent c'est évidemment Vladimir Poutine. Il s'était quitté à Washington avec cette possibilité de rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Il n'en est plus question maintenant. On repart sur d'autres
bases. Depuis, Séverin Husson, Donald Trump, il a compris que Vladimir Poutine, il ne ferait jamais la paix.
En tout cas, effectivement, pour le moment, Vladimir Poutine ne cesse de repousser le moment de la rencontre avec Volodymyr Zelensky. Et sur le terrain, les Russes continuent à gagner du terrain. En gros, je crois que c'est l'armée russe prend 500 km² par mois. Donc évidemment,
et Vladimir Poutine dit aujourd'hui son armée est toujours à l'offensive, voilà, sur tout le territoire.
Et donc tous les 15 jours ou toutes les semaines, Donald Trump dit attention, je vais finir par me fâcher si la rencontre n'a pas lieu et si
ce qu'il dit encore ce soir.
Ce qu'il a encore dit ce soir.
Ils n'ont pas se passer quelque chose.
À encore être en mi-août, il avait donné 15 jours. Les 15 jours sont largement dépassés. Donc voilà. Est-ce qu'il faut croire Donald Trump? Est-ce qu'il va finir par effectivement appliquer de nouvelles sanctions à la Russie comme il menace de le faire? C'est en tout cas, est-ce qu'il faut espérer?
Elisabeth, à noter que Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, sera demain à Paris. Ça vient d'être confirmé de sources diplomatiques. C'est pas encore officiel. On ne sait pas encore s'il participera aux discussions demain matin ou s'il verra, par exemple, Volodymyr Zelensky en particulier. En tout cas, sa présence à Paris est importante parce que ça veut dire que la partie américaine est présente à un très haut niveau.
Vous confirmez, Guillaume Lagan, que cela joue la présence en plus de Steve
Witkoff? Ah oui, Witkoff, c'est intéressant parce que Witkoff, c'est quelqu'un qui a rencontré Poutine à plusieurs reprises, qui a été l'émissaire de M. Trump. Alors, il n'est pas nécessairement, vous le savez, compétent au départ. Il était dans l'immobilier. Donc, mais de fait, il a une connaissance maintenant assez fine du sujet. Et il est important qu'il soit là parce qu'il était quand même perçu comme quelqu'un de plutôt pro-russe, favorable à une pression sur l'Ukraine plus que sur Moscou. Donc le fait qu'il participe à cette coalition des volontaires, je pense que c'est plutôt positif.
C'est un courage, le fait que Donald Trump soit lui à distance, qu'il participe aussi à sa manière, à cette coalition, ou en tout cas à ce rendez-vous, ça donne une autre dimension.
C'est très important, parce qu'après Anchorage, on pouvait craindre, avec les honneurs que Trump a réservés à Poutine, qu'il bascule complètement dans le jeu russe. Et ça aurait été une catastrophe, évidemment, d'abord pour Zelensky, l'Ukraine, mais aussi pour les Européens. Donc on a quand même, dans ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, l'accord de paix est très très loin, mais le camp des défenseurs de l'Ukraine est consolidé. Et le fait qu'il y ait à la fois Witkoff et Trump et que ces négociations avancent, que le dispositif soit précisé, c'est très important.
Pour le moment, on ne sait rien du dispositif. Et moi, ce que j'ai entendu de la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est quand il dit « nous sommes prêts », c'est « les Européens sont prêts ». Il n'a pas parlé des Américains. Et évidemment, les garanties de sécurité ne peuvent pas se faire sans l'intervention des Américains, parce qu'il faut évidemment un cessez-le-feu ou une paix, mais aussi parce que les Européens, les armées européennes sont des blocs les uns côté des autres, mais la glu, celle qui va permettre de lier l'ensemble du dispositif, c'est l'intervention américaine. Si l'intervention américaine n'a pas lieu, et tant qu'elle n'est pas précisée, on ne sait pas si elle a lieu, ça ne pourra pas se faire.
Oui, en fait, alors ce qui circule aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'éléments établis, mais c'est qu'il y aurait trois dispositifs. Il y aurait d'abord un déploiement de soldats sur le front, qui pourrait appartenir à des nations extra-européennes. On aurait peut-être une opération de l'ONU, de casque bleu, qui viendrait surveiller le cessez-le-feu, donc éviter, un peu sur le mode Finul, si vous voulez, au Liban, que les deux adversaires continuent à s'affronter. Ensuite, on aurait un deuxième déploiement au sol de soldats européens aidés par les Américains, mais uniquement des Européens, avec des moyens en mer Noire, avec une surveillance, aérienne.
Notamment la voilà,
et c'est là que c'est là qu'effectivement le soutien américain est indispensable, parce que si jamais ça tournait mal, eh bien il faut avoir le soutien des États-Unis, sinon on aurait des difficultés avec quelques milliers de soldats à affronter la Russie. Et puis après il y aura un dernier aspect qui serait un soutien extérieur aux frontières de l'Ukraine dans ces garanties de sécurité, sous forme de financement, sous forme de livraison d'armes, et ça c'est l'idée de l'Italie, d'un article de type article 5 de l'OTAN, qui viendrait déclencher une intervention des Occidentaux en faveur de l'Ukraine.
Un pays qui est touché, les autres doivent y aller.
Voilà, mais sans que l'Ukraine appartienne à l'OTAN, puisque aujourd'hui, il y a une opposition des États-Unis à cela.
Il y a ce processus d'adhésion. Sylvain Courage, il y a ces deux images, on ne les a pas vraiment encore, mais en tout cas, il y a ces sortes de deux blocs qui se forment. On a d'un côté en Chine ce sommet avec le président chinois Vladimir Poutine, le leader nord-coréen également, et puis ce qui va se passer ou ce qui commence à se passer à Paris, Volodymyr Zelensky aux côtés d'Emmanuel Macron, des Européens et Donald Trump, même si je le rappelle.
Oui. On voit la partition du monde avec deux camps assez marqués. Et d'ailleurs, le fait que Poutine se trouve à Pékin participe sans doute du désappointement de Trump et même de son courroux. Et donc, je pense que là, on voit bien que l'alliance atlantique, en fait, quand même, s'est reconstituée.
C'est ce qu'il a décidé, Guillaume Lagane, Donald Trump a participé à ces rendez-vous, de voir Vladimir Poutine comme ça le narguer, en quelque sorte, depuis la Chine.
Je pense que ça a pu être un élément important, parce qu'on sait que chez M. Trump, il y a une forte dimension psychologique, et donc il est un peu déçu par M. Poutine, à qui il a quand même offert un pont d'or. Le recevoir aux États-Unis, c'était quand même quelque chose de très positif pour la Russie. Je pense aussi, on en parlait tout à l'heure, que la rencontre de Washington a été importante, parce que les Européens sont venus présenter à Donald Trump des éléments tangibles. Alors peut-être qu'ils ont parlé, je suis pas sûr qu'ils soient vraiment descendus dans le détail, mais ils ont dû quand même lui expliquer qu'il y avait des milliers de soldats prêts à se déployer sur le sol ukrainien. Donc ça a donné un peu quelque chose de concret. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que malgré tous les tiraillements, ce qui est intéressant avec cette coalition des volontaires, c'est que c'est quand même une réponse opérationnelle et concrète à ce qu'on vient de voir à Pékin. C'est-à-dire, à Pékin, on a vu le monde s'organiser autour de la Chine. Certes, c'est très impressionnant, mais on répond à ça par une réunion qui est technique et avec peut-être un déploiement militaire qui va se faire, alors que les gens qu'on voit autour de M. Xi Jinping, je pense par exemple, on voyait derrière lui le président iranien, il y a quelques mois, il était tout seul quand Israël et les États-Unis l'ont attaqué. Il n'y a pas de solidarité militaire encore entre les membres de ce bloc.
Une question que se posent peut-être ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent, les choses prennent du temps, on peut le dire, 3 ans et demi de guerre déjà. Cette coalition des volontaires, elle a été initiée il y a 6 mois maintenant par la Grande-Bretagne et la France. Tout à l'heure, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, disait, voilà, on va voir ce que les Européens peuvent enfin proposer. On se dit, voilà, après tous ces mois, toutes ces années, on en est encore là finalement.
Oui, on en est encore là, et encore une fois, le chemin est long, parce que je rappelle que ce dont on discute aujourd'hui, c'est un plan sur du papier. Hein. Lorsque ce plan sera appliqué, ça veut dire que la paix sera revenue en Ukraine. Donc d'une certaine manière, on sera sorti, on ne sait pas trop comment, mais en tout cas, on sera sorti de la période la plus chaude du conflit. Ce qui était, rappelez-vous, discuté l'année dernière, juste avant les élections européennes, c'était un déploiement de soldats européens maintenant. C'est-à-dire, pour venir soulager les Ukrainiens qui, on le sait, manquent beaucoup de soldats sur le front, on aurait déployé des milliers de soldats dans la partie occidentale de l'Ukraine pour garantir un certain nombre de fonctions et permettre à l'armée ukrainienne de se redéployer à l'Est. Donc là, ce qui est discuté aujourd'hui, c'est positif, mais on n'en est pas à ce qu'on était à l'époque. Et en fait, le problème militaire reste entier, c'est-à-dire comment l'Ukraine va-t-elle faire pour passer l'hiver qui est devant nous et atteindre la 4e année de guerre.
Et on rappelle cette réunion demain, donc, de cette coalition des volontaires, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, les autres dirigeants européens, et puis Donald Trump à distance. Merci beaucoup, Guillaume Lagane, d'être venu ce soir dans Les Informés, spécialistes, je le rappelle, des questions de défense et de géopolitique. Le titre de votre nouveau livre, qui paraîtra le 17 septembre, voilà la date, Géopolitique de l'Europe, c'est aux presses universitaires de France. Image marquante, on le disait, Elisabeth Pinault, de voir Emmanuel Macron avec son homologue ukrainien, un moment politique en France extrêmement tendu, c'est peu de le dire, l'international, son domaine réservé, c'est un peu le seul qui lui reste aussi finalement aujourd'hui à Emmanuel Macron.
Oui, sur le papier, parce que Emmanuel Macron se mêle aussi de politique intérieure, puisque pas plus tard qu'hier, il a reçu à déjeuner tous les responsables du socle commun, et ce n'était pas arrivé depuis longtemps, depuis 4 ans, je crois même, nous a dit l'Élysée. Donc, ils ont bien parlé politique intérieure. Et puis, il a eu...
La question de son influence se pose tout de même.
Il a eu son message aujourd'hui en Conseil des ministres, peut-être le dernier de l'ère Bayrou. Donc, j'étais ce matin à l'Élysée, dans une ambiance un peu étrange, et le président a eu ce message qui a été rapporté par la porte-parole du gouvernement.
Qui d'ailleurs a dit à bientôt et non pas à la semaine prochaine.
Il fallait se mobiliser pour essayer de passer l'obstacle. C'est comme ça qu'il a défini la journée à haut risque de lundi prochain. Et puis il a dit que nous étions dans un mouvement national et international singulier. Voilà qui est joliment dit, alors qu'on peut parler de crise si on voit le verre vide.
Avec ce vote de confiance, nous en sommes à 5 jours maintenant, vote de confiance qui, sauf énorme surprise, fera tomber le gouvernement de François Bayrou. Emmanuel Macron, qui s'est longuement adressé à ses ministres ce midi pour leur demander de rester mobilisés jusqu'au bout, ce que confirme le ministre de l'économie, Éric Lombard.
Bien sûr, nous sommes mobilisés derrière le Premier ministre depuis que nous sommes au gouvernement à la fin de l'année dernière. Et nous avons préparé avec mes collègues un projet de budget qui va être soumis au dialogue et sur lequel il y a un vote important lundi prochain. Et moi, j'en appelle aux parlementaires pour que ce vote soit positif.
Éric Lombard, le ministre de l'économie, que l'on présente d'ailleurs, tiens, comme une éventualité pour Matignon, pour prendre la suite, si je m'encourage.
Oui, il a un profil compatible avec les socialistes.
Proche d'Olivier Faure.
Un ancien rocardien, proche d'Olivier Faure. Et il avait déjà joué un rôle essentiel dans la première négociation, cet accord de non-censure, en trouvant vraiment un terrain de discussion avec les socialistes. Donc, du coup, il apparaît comme étant peut-être l'homme de la situation. Mais la situation, comme l'a rappelé Elisabeth Pinault, est tellement difficile que existe-t-il un homme de la situation?
C'est la question, Elisabeth Pinault.
En tout cas, Éric Lombard joue un rôle clé, ça on l'a confirmé ce matin, il ne brigue pas forcément Matignon, mais en tout cas, pour les discussions avec le Parti Socialiste, c'est quand même lui qui les mène en coulisses. Vous l'avez dit, c'est un proche d'Olivier Faure, il vient du Parti Socialiste, et puis c'est l'homme du budget, c'est l'homme du sujet qui est sur la table.
Mais est-ce que c'est un atout ou justement
un inconvénient? En tout cas, c'est la courroie de transmission, c'est bien ce qu'on m'a expliqué, c'est la courroie de transmission, lui et Amélie de Montchalin dans une moindre mesure, mais tout de même. Entre le gouvernement et le Parti Socialiste actuellement.
C'est vrai, Husson.
L'hypothèse que le PS rentre dans la danse est quand même relativement faible, en tout cas à mes yeux, parce que si on élargissait le gouvernement à des ministres socialistes, d'abord, Olivier Faure a dit très clairement qu'à ses yeux, il fallait un gouvernement uniquement de gauche qui ensuite présenterait des projets à l'Assemblée nationale et chercherait des coalitions, des majorités par projet. Mais il a fermé la porte à un gouvernement de gauche et de macroniste. Mais aussi,
on a vu déjà que ça ne marchait pas ces derniers mois.
Il perdrait les Républicains.
Et le risque, c'est qu'il perdrait les Républicains.
Voilà, effectivement. Voilà.
Gérard Larcher, dans Le Parisien, a dit clairement...
Le président du Sénat.
A pris clairement cette option-là. Donc l'hypothèse quand même d'élargir la majorité à gauche est, à mon avis, assez faible.
Emmanuel Macron qui demande à ses ministres de tenir jusqu'au bout, c'est quoi? C'est la méthode Coué, Elisabeth Pinault?
En tout cas, c'est le mot d'ordre. n'est pas défaitiste et tout le monde se bat, y compris François Bayrou qui intervient dans les médias absolument tous les jours. Il sera demain au journal de 20h, vendredi sur RTL, samedi à C'est à vous, dimanche chez Brut.
Il était ce matin à la radio encore.
Il était ce matin à la radio et il multiplie pour prendre les Français témoins à travers les médias, c'est quand même ça qu'il essaye de faire, c'est de
oui, parce que sans réelle avancée de proposition à chaque fois.
Il en propose quelques-unes, mais alors
il a quand même
que personne ne comprend, y compris au gouvernement, c'est
pas
pourquoi il n'a pas mené cette négociation avant. Tout le problème est là, c'est pourquoi n'a-t-il pas négocié, en tout cas essayé de s'assurer qu'il n'aurait pas tout le monde contre lui, ce qui s'est passé dès le soir de son annonce. Personne ne comprend pourquoi il n'a pas négocié, il ne s'est pas assuré de ne pas avoir une fronde contre lui aussi vite.
Oui, parce qu'on a dit, on l'a déjà dit beaucoup, il ne s'attendait pas finalement à avoir en moins de 2 heures la réponse et du PS et du Rassemblement National qui lui fermait la porte tout de suite.
Exactement, c'est là la surprise et là Bayrou, l'homme du compromis, le centriste, le négociateur qui était censé parler à tout le monde, y compris au Rassemblement National et au Parti Socialiste, là cette image s'est effondrée et il y a une réelle incompréhension au sein du gouvernement et auprès des Français qui qui voit bien ce qui se passe et qui se demande pourquoi on se trouve dans une telle situation sans avoir commencé à discuter de ce budget, à avoir cherché des compromis, parce qu'ils comprennent bien qu'il va falloir s'entendre, se parler, et ça se fait dans plein d'autres pays.
On le voit d'ailleurs dans la cote de popularité du Premier ministre.
Et là, on est juste face à un mur.
Sylvain Courage, vous parliez des avancées en disant qu'il a renoncé aux deux jours fériés. Il dit qu'il est ouvert à...
Alors, il a renoncé à un jour férié, voilà. Il est ouvert aux alternatives, donc on voit que... En fait, c'est vraiment une tactique qui a raté, mais dans les grandes largeurs, parce qu'il voulait créer une tension. Hein. On dit toujours que quand on veut négocier, il faut qu'il y ait un rapport de force. Donc il a dit, le 8, j'engage la responsabilité de mon gouvernement. Et il espérait que tout le monde allait se précipiter pour négocier avec lui. Et en fait, les gens ont dit, alors tant pis, au revoir. Et du coup, il essaye aujourd'hui de négocier, mais son sort est déjà scellé. Donc c'est vraiment, ça s'est retourné contre lui. Je pense qu'il était de bonne foi quand il a initié cette manœuvre, mais c'est
Avec
l'accord d'Emmanuel Macron, qui, lui, n'est pas en première ligne non plus. Donc, il le laisse
faire. Il risque de s'y retrouver assez vite.
Oui, il risque de s'y retrouver.
Il va venir très vite, quand même.
Le président, d'ailleurs, qui a demandé à ses ministres et à ses députés, et aux députés, en tout cas, du socle commun, de se serrer les coudes, de multiplier les contacts et les tentatives de discussion avec les autres partis, avec les socialistes, on l'a dit, en priorité. Le problème, c'est que le premier concerné, François Bayrou, il ne joue pas le jeu, c'est vrai, Husson.
Non, il joue pas le jeu, mais c'est plus lui qui, on le saura lundi, mais c'est plus lui qui a effectivement les cartes en main. Et il essaie de négocier quand même mollement. Il a tendu la main plus ou moins sur les jours fériés. Ils ont tendu une main également sur l'AME.
On en reparlera dans les prochaines minutes.
Mais effectivement, la négociation n'a pas lieu aujourd'hui.
Comment est-ce que vous analysez, Elisabeth Pinault, l'attitude justement de François Bayrou?
Je crois que Sylvain Courage l'a bien expliqué. Il a voulu faire un coup. Ça rappelle étrangement la dissolution. C'est-à-dire Emmanuel Macron a voulu réveiller tout le monde
en provoquant
cette dissolution.
Un moment de vérité,
Français...
de clarification.
Oui, de clarification. D'ailleurs, le mot a été utilisé cette fois-ci encore. Et puis, cette question de la dette devait rassembler tout le monde. Et puis, il n'a pas compris que la question posée... Alors lui, il dit, c'est simplement une question sur l'endettement. Tout le monde est d'accord pour dire que la France est trop endettée, mais bien sûr, ça se transforme en pour ou contre François Bayrou, et avec une telle impopularité, c'était très risqué. Et je le répète, sans avoir auparavant téléphoné à tout le monde et s'assurer qu'il n'aurait pas comme ça une fronde aussi rapide. C'est difficile à comprendre qu'il n'ait pas comme ça assuré ses arrières pour annoncer une telle mesure, ce
Cette
vote.
Cette impopularité justement du Premier ministre, elle est aussi au cœur du problème, parce que justement, beaucoup font le même constat en disant oui, effectivement, il faut faire ces dizaines de milliards d'économies, est-ce que c'est la bonne manière ou pas? Il y a des divergences. Mais globalement, beaucoup reconnaissent que le chemin est peut-être le bon. Mais avec François Bayrou, visiblement, ça ne passe pas.
Non, et d'ailleurs, cet été, il voulait établir un lien direct avec les Français qui, pour la plupart d'entre eux, étaient en vacances. Donc, il a créé ce rendez-vous sur YouTube qui a été un désastre. Donc, il y avait quand même des signaux. Il n'a pas très bien compris ce qui était arrivé à son prédécesseur, Michel Barnier. C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui qu'il faut deux premiers ministres pour faire un budget. Le premier sert un peu de bouc émissaire, de victime expiatoire, et puis le deuxième à l'écoute des franges pour essayer de négocier quelque chose. On a l'impression que c'est le même mécanisme, d'ailleurs on se retrouve à peu près dans les mêmes termes du débat, que ce qui s'est produit et qui lui a bénéficié quand Michel Barnier a présenté son budget, puis est tombé, et puis ensuite lui, François Bayrou, est arrivé. Et donc là, il a rejoué la scène. C'est assez étonnant qu'il n'ait pas analysé le risque qu'il y avait pour lui de s'exposer à ce moment-là. Peut-être que s'il avait commencé par discuter, il avait peut-être une minuscule chance de passer, mais là, c'est fichu.
On parlait du Parti Socialiste. La rencontre avec Olivier Faure, François Bayrou face à Olivier Faure demain, ça s'annonce assez mal, Elisabeth Pinault.
On verra, on imagine mal qu'un miracle ait lieu. Il n'y en a pas eu avec le Rassemblement National.
Pour reprendre les mots de Jordan Bardella.
Ça peut se passer demain matin. Néanmoins, c'est quand même avec le Parti Socialiste et le groupe Liot, qui a une vingtaine de députés, que le gouvernement veut essayer de sauver les meubles. D'ici lundi,
on a
et
du
aussi
mal à comprendre comment,
ensuite,
même mathématiquement.
Et en tout cas, l'argument, c'est le Parti Socialiste n'a pas intérêt à tout bloquer et à une dissolution, par exemple, parce qu'il risquerait d'avoir beaucoup moins de députés. Voilà, ça c'est un argument, mais c'est pour le coup d'après. Pour
l'instant, PS, d'ailleurs, ne pousse pas pour la dissolution.
On essaye déjà de voir ce qui peut se passer d'ici lundi, mais en effet, la réunion de demain risque d'être vaine, parce que ou alors ils vont peut-être un peu entrer dans les détails, pourquoi pas, on peut l'espérer qu'il y ait une forme de négociation pour essayer de préparer ce budget, parce que de toute façon, un jour, il faudra un budget. Avec ou sans François Bayrou, ou avec ou sans Olivier Faure, il va falloir de toute façon négocier et avoir
oui, que les
du monde à droite et à gauche
après,
pour voter ce budget.
Il faudra un compromis
à noter tout de même que, donc on a eu quand même des échos à l'Élysée, enfin, sur ce qui s'est dit lors de ce déjeuner hier autour d'Emmanuel Macron, parce qu'il y avait quand même les gens du socle commun, Gabriel Attal,
Édouard Philippe,
mais aussi Bruno Retailleau. Et ils se sont entendus pour dire un, qu'il ne fallait pas dissoudre, que la dissolution n'était pas ce qui était souhaitable dans l'immédiat, c'est ce que demandent le Rassemblement national et la France insoumise, et petit 2, que c'était vers les socialistes Elliott qu'il fallait se tourner. Apparemment, Bruno Retailleau y compris est d'accord avec ce point, sur ce point. Donc, à voir comment vont se passer les négociations. C'est un peu surprenant, mais et puis alors, le LR, c'est tout un chapitre également, parce que Laurent Wauquiez est sur une ligne beaucoup plus dure. Donc,
beaucoup de divisions, on a entendu aussi Nicolas Sarkozy hier.
L'histoire ne fait que commencer, et ce budget va être très difficile à négocier.
C'est vrai, je rappelle juste qu'Olivier Faure a dit que la décision de ne pas voter la confiance était irrévocable. Donc, je ne vois pas comment il pourrait revenir sur cette déclaration.
Et il sera reçu effectivement demain à Matignon par François Bayrou. La seconde partie des informés, dans un instant, Elisabeth Pinault, Sylvain Courage et Séverin Husson vont rester avec nous.
20h, 21h, France Info, les informés. Victor Matet.
Et bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info avec ce soir dans les informés Elisabeth Pinault, correspondante à l'Élysée et Matignon pour l'agence Reuters, Sylvain Courage, directeur adjoint de la rédaction du Nouvel Obs, et Séverin Husson, directeur adjoint de la rédaction de La Croix. À 5 jours du vote de confiance à l'Assemblée qui fera, sauf énorme surprise, tomber le gouvernement Bayrou, on l'a dit, cela coince avec la gauche pour le Premier ministre qui, de l'autre côté de l'échiquier politique, eh bien envoie un gage au Rassemblement National. Le Premier ministre confirme les projets de décret pour réduire la liste des soins de santé pris en charge par l'aide médicale d'État, l'AME, pour les étrangers en situation irrégulière.
C'est une mesure de bon sens. Lorsque vous demandez des efforts aux Français, il n'est pas possible que le sentiment que les Français éprouvent, c'est que eux doivent faire des efforts et les étrangers, puisque aide médicale d'État, c'est destiné aux étrangers, pas possible que tout le monde n'y soit pas associé.
François Bayrou, ce matin sur BFM, un mot du timing de cette annonce, Elisabeth Pinault.
C'est assez surprenant parce que ça donne l'impression qu'il donne un gage au Rassemblement national qui a fermé la porte à la négociation.
Et à une partie de LR.
Dire gage aussi à Bruno Retailleau qui était en faveur aussi de cette.
Je pense qu'il veut peut-être montrer aussi qu'il peut aller dans toutes les directions, à droite comme à gauche. Il peut
donner un peu
des gages et prendre des mesures dans tous les domaines. En prenant à témoin les Français, en disant on veut de la justice et donner une priorité aux Français.
Il faudra regarder de près les votes lundi, parce que si une partie des députés LR ne vote pas la confiance,
on estime une quinzaine pour l'instant.
Ça pourrait être une quinzaine. La suite de cette majorité, et qui va quand même effectivement devoir à un moment donné, sauf s'il y a dissolution, mais sinon qui va quand même devoir à un moment donné voter un budget, ce sera plus compliqué si jamais il y a une partie des troupes qui a fait défection. Et donc voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là que François Bayrou a fait cette déclaration.
Sur ses annonces sur l'AME, Sylvain Courage.
Oui, comme on le disait, je pense qu'il essaye de voir, il tente à voir si ça bouge d'un côté, si ça peut bouger un peu de l'autre. Mais enfin bon, c'est les derniers. Alors il choisit des symboles, la question des jours fériés ou l'AME, c'est vraiment des marqueurs. Ça veut pas dire qu'il a entamé une vraie négociation, et ça fera pas bouger les partis qui ont décidé de ne pas lui accorder la confiance le 8. Après, il y a peut-être une autre lecture, c'est qu'on sait très bien que le Bloc central a deux versants. Il y a un versant droit et un versant gauche. Et donc là, il envoie un signal au versant droit, peut-être parce qu'il sent que les choses se débloquent du côté du versant gauche. Il a eu vent de ce qu'Elisabeth Pinault nous racontait, c'est-à-dire ce déjeuner où Emmanuel Macron a dit « bon, faut qu'on cherche peut-être un compromis avec les socialistes ». Donc il essaye aussi peut-être de se défendre en disant « mais vous, ceux de la droite, vous allez pas laisser faire ça ». Donc peut-être qu'il y a un petit jeu pervers quand même à alterner comme ça, un coup à gauche, un coup à droite.
Vous partagez cette analyse, Elisabeth Pinault ?
C'est possible. C'est difficile à analyser complètement parce que on a des annonces un peu tous les jours. Et encore une fois, ce travail de négociation aurait dû être fait de toute façon sans ce vote, sans cette épée de Damoclès qui arrive lundi prochain. On se dit, tant mieux s'ils commencent à négocier, à donner des gages, à tester des choses. Le problème, c'est qu'il reste cinq jours. Ça ne va pas suffire pour mener à bien cette négociation ou pour dire on avance, regardez comme on avance bien et donc ça va changer le vote. Ça paraît bien court.
Ce gage envoyé à l'extrême droite, alors que le président du RN, Jordan Bardella, lui a écrit une lettre aux chefs d'entreprise de France, c'est le titre de ce courrier, pour leur expliquer pourquoi son parti n'allait pas voter la confiance lundi prochain et en se présentant comme, je cite, « garant de la stabilité économique ». Un courrier alors que de nombreux entrepreneurs s'inquiètent de la situation économique et politique actuelle. C'est le cas de Thierry Cottière, le patron du groupement Les Mousquetaires.
Prudence à investir, prudence à embaucher, et puis je viens de vous le dire ce matin, prudence des consommateurs à consommer, parce que, bien évidemment, ce climat, il est pas bon. Nous, ce qu'on a besoin, les chefs d'entreprise, c'est de stabilité, de confiance, d'un budget. C'est bien l'inquiétude qu'on a. Est-ce qu'on va en avoir un? Et puis, on appelle à la responsabilité des politiques. C'est-à-dire que la France n'a pas cette culture du compromis politique. Il faudrait en avoir une, parce que nous, les mousquetaires, on est au Portugal, on est en Belgique, on est ailleurs. Il y a eu les mêmes crises. La conso, elle repart et l'économie se porte beaucoup mieux.
Le président du groupement Les Mousquetaires, ce matin, chez nos confrères de France Inter, qui appelle donc au compromis et se fait draguer, Séverin Husson, clairement avec les autres chefs d'entreprise par l'extrême droite, toute une série de propositions dans ce courrier, le RN qui appelle à une dissolution ultra rapide et clairement déjà en campagne.
Oui, pour moi, il y a deux objectifs dans ce courrier, c'est-à-dire qu'il veut montrer que le RN est pro-entreprise, ce qui est pas complètement évident pour les chefs d'entreprise, qui se méfient pas mal de ce...
Pas le cœur de cible du RN, normalement.
C'est pas le cœur de cible du RN. Et dans le programme de Marine Le Pen, dans les dernières élections présidentielles, il y avait beaucoup de mesures qui étaient pas tellement, enfin, qui pouvaient hérisser un peu le poil des chefs d'entreprise. Donc Jordan Bardella, qui est davantage sur ce créneau-là, veut montrer que c'est un parti qui sait entendre cet électorat.
C'est l'illustration, Elisabeth Pinault, du virage libéral de Jordan Bardella.
Oui, il y a une vraie différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella vis-à-vis du monde économique. Jordan Bardella, en tout cas, depuis longtemps, a une image, au moins auprès des PME, il a souvent intervenu. On ne sait pas s'il rencontre des personnalités du CAC 40. On le suppose. C'est quelque chose qui reste encore un peu tabou. On n'ose pas encore se montrer à côté du président du Rassemblement national quand on est un chef d'entreprise. En tout cas, Jordan Bardella essaie de donner des gages parce que vous l'avez dit, jusqu'ici, le programme du Rassemblement national ne paraissait pas vraiment réaliste économiquement. Marine Le Pen est très, par exemple, défendresse des services publics. Donc, c'est quelque chose qui coûte cher, qui n'est pas considéré comme pro-entreprise. Jordan Bardella, lui, joue cette carte pro-entreprise plus franchement. Et puis, le fait, en effet, qu'il sorte cette lettre aujourd'hui, alors qu'on est tous braqués vers le 8 septembre, eux, ils sont déjà dans le coup d'après. Ils préparent activement la dissolution, les prochaines élections législatives. Ils l'ont montré encore lundi avec ce bureau de campagne. Ils font bien savoir que 85% de leurs candidats sont prêts et que leur programme est en cours de finalisation et qu'ils sont prêts à gouverner. Ils ont vraiment fait ce choix d'être déjà dans le coup d'après, c'est-à-dire dans la dissolution et dans cette marche vers le pouvoir.
Et après le 8 septembre, il y aura le 10, le jeudi, et cet appel à tout bloquer, lancé avant l'été. Une note des renseignements territoriaux confirme aujourd'hui le flou qui entoure cette journée, des blocages, une quarantaine de manifestations dans toute la France et 100 000 participants au total. Certains modes d'action des gilets jaunes sont évoqués, comme les occupations de ronds-points. Écoutez justement cette ancienne gilet jaune âgée de 70 ans, elle appelle à ne pas faire les mêmes erreurs qu'il y a 7 ans.
Bloquer les citoyens qui veulent travailler, non, parce que malheureusement les gens ont besoin de travailler. Celui qui peut faire grève, qui fasse grève, c'est que par là qu'on y arrivera.
Sylvain Courage, ce que l'on retient pour l'instant, on l'entend aussi à travers ce témoignage, c'est que c'est un peu le flou qui domine ce 10 septembre.
C'est le flou parce que à part la date, en plus, elle a été choisie de manière un peu étrange puisque c'est un mercredi, donc alors que les gilets jaunes faisaient ça le week-end et donc les gens sont plus disponibles pour manifester, ça vient pas empiéter sur leur temps de travail. Et c'est
mais l'idée là, c'est de bloquer, donc peut-être que le week-end
mais
ça marchait moins.
À part la date, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de chef, il n'y a pas vraiment de mot d'ordre. Les gilets jaunes, c'est à côté, c'était franchement génial. Il y avait les ronds bon point. Il y avait une revendication précise sur la question de la taxe au départ, la taxe sur les carburants. Et puis, il y avait ce gilet jaune qui créait une identité. Là, on ne sait pas trop à qui on a affaire et comment ça va se passer. Si bien que pour l'instant, c'est très vaporeux, très gazeux. Et bon, les services de renseignement, ils donnent une évaluation, mais on n'a pas l'impression que ça va être une énorme affaire. D'autant plus que là, cette gilet jaune disait qu'il faut faire la grève. Mais précisément, les syndicats, même s'ils sont, ils sont pleins de bienveillance pour le mouvement, ils ont fixé la vraie grève, le vrai jour de mobilisation, au 18. Et là, ils sont rejoints
une semaine après.
Voilà, par les syndicats de SNCF. Donc on voit bien qu'il n'y a pas un front uni, il n'y a pas vraiment pour l'instant de raison de penser que ça va être massif. Voilà, ce sera probablement visible et ça peut être spectaculaire, mais ce ne sera pas forcément massif.
Et les renseignements parlent, je les cite toujours, d'actions portées notamment par la mouvance d'ultra-gauche. Elisabeth Pinault, le mouvement pourtant était parti de messages qui venaient plutôt de l'autre côté, de l'extrême droite.
Oui, c'est tout cette espèce de melting pot. Il y a des revendications qui viennent d'un peu partout. Le mot d'ordre, les leaders ne sont pas clairs. Mais néanmoins, un petit nombre de personnes peut bloquer, en effet, le pays assez facilement. Enfin, j'ai vu sur Internet, sur les réseaux, des appels à bloquer le périphérique parisien, à manifester autour des Halles, en plein cœur de Paris, mercredi.
Oui, il y a des axes routiers, des aéroports.
Des AG, un bal populaire en fin d'après-midi. Bon, on verra si c'est juste un petit groupe qui veut juste marquer le coup, ou si c'est plus massif que ça. J'ai lu aussi qu'il y avait quand même pas mal d'assemblées générales dans certaines régions, notamment en Bretagne.
Donc, la Bretagne particulièrement... Effectivement,
apparemment,
active.
Oui, elle serait une des régions les plus...
2500 participants aux différentes réunions de préparation.
Donc 2500 personnes, c'est à la fois peu et à la fois ça peut, s'ils sont relativement organisés, ça peut bloquer des routes, des aéroports, des gares. D'ores et déjà, on sait que mercredi prochain, ce sera une journée où les Français vont éviter de prendre le train, vont éviter peut-être de prendre leur voiture ou de prévoir des achats, par exemple. Donc l'économie va forcément en pâtir au moins une journée. On verra si ça dure.
La note des renseignements territoriaux que vous mentionnez estime à 100 000 personnes qui pourraient se mobiliser. Donc effectivement, c'est pas massif, mais 100 000 personnes, c'est quand même pas rien. Et puis effectivement, le mouvement était plutôt parti de mouvance de la droite extrême. Et il y a eu un travail qui a été fait par la Fondation Jean Jaurès qui montre qu'aujourd'hui, sur les boucles WhatsApp, donc c'est quelqu'un qui a envoyé d'un...
Il faut rappeler aussi le contexte. Il y a eu une tentative de récupération, si on peut l'appeler comme cela, de la part de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon. La CGT, à un moment, s'en est un peu emparée aussi avant de s'en
écarter. Mais selon ce travail de chercheurs de la Fondation Jean Jaurès, c'est effectivement une majorité de gens qui votent à gauche, voire à l'extrême gauche, qui sont aujourd'hui actifs sur ces boucles WhatsApp. Il dit 70% parmi les 1000 personnes qui ont répondu à ce questionnaire, 70% ont voté pour Mélenchon et 10% pour Poutou.
Et la note, d'ailleurs, dit que ce sont les mots anti-gouvernement et anti-président qui marquent le basculement de ce mouvement vers l'extrême gauche. Il y aura une particularité tout de même, Sylvain Courage, c'est que la colère, elle va s'adresser à qui ? Il n'y aura plus de gouvernement, théoriquement.
Voilà, alors c'est
ce
vrai
jour-là.
Que la décision de François Bayrou de se saborder deux jours avant ôte la principale revendication, puisque c'était quand même ce qui a fait démarrer le mot d'ordre « bloquons tout ». C'est l'annonce du plan de rigueur. Et c'était donc un mouvement qui prétendait se mobiliser contre la rigueur budgétaire. Alors, ça peut dire que la rigueur budgétaire a disparu des radars, mais le plan, et en tout cas le Premier ministre qui le porte, va disparaître deux jours avant. Donc, c'est aussi un élément qui peut faire que la mobilisation ne va pas forcément être générale, comme l'a souhaité...
Et vous parliez de l'organisation. La note de ces renseignements indique aussi que le mouvement reste marqué, je cite, par l'absence de coordination structurée. Cela n'avait pas empêché les Gilets jaunes et Elisabeth Pinault de connaître le succès que l'on sait.
Oui, c'est certain que ça peut venir de partout et de nulle part. En tout cas, oui, c'est au départ, on a eu ce mouvement qui arrivait de mouvements complotistes, anti-vax, et puis ensuite, le jour où la France Insoumise l'a soutenu, ça a changé un peu. Les soutiens ont évolué. Donc, c'est vraiment la grande inconnue mercredi prochain, et ça va aussi jouer peut-être dans le timing du remplacement de François Bayrou s'il est renversé lundi. Est-ce qu'Emmanuel Macron va, dès lundi soir ou mardi, nommer un nouveau Premier ministre et lui demander de faire un gouvernement qui aura donc à gérer tout de suite, dès mercredi, une crise sociale ?
C'est une hypothèse crédible, ça ?
Alors, sur le timing, personne ne veut s'avancer.
Jusqu'à présent, il a plutôt pris son temps.
Il a beaucoup pris son temps à chaque fois. Certains disent qu'il veut aller vite, mais vraiment, je crois que personne n'en sait rien et personne ne s'avance. Et à l'Élysée, personne ne veut donner de calendrier, ça c'est certain.
Et on parle beaucoup du 8 de lundi prochain à Matignon et à l'Élysée. Que dit-on justement de cette journée du 10 ?
On le surveille comme le lait sur le feu. Ça reste flou, ça peut faire pchit, comme ça peut exploser. Voilà, on m'a dit ça à Matignon. Donc ils sont prêts à toutes les hypothèses. Il y a évidemment une grande vigilance du côté de la place Vauvau. Il ne faut pas qu'il y ait de problèmes massifs d'ordre public. Et puis ensuite, si le gouvernement de François Bayrou tombe lundi, ce sera ensuite un gouvernement démissionnaire, donc qui devra gérer les affaires courantes et qui devra donc faire face à cette crise, comme Gabriel Attal l'avait fait pendant tout l'été, avant la nomination de Michel Barnier.
Avec une date limite pour voter un budget qui est, si je ne me trompe pas, autour du 13 octobre.
7 octobre pour le déposer, et puis ensuite, voilà.
Effectivement, ça va aller assez vite.
Et voilà, évidemment, tout est regardé. Emmanuel Macron doit aller à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU autour du 20-21 septembre. Il dit, il va quand même régler ça avant de partir, mais rien ne permet de le dire avec certitude.
Ce 10 septembre, c'est Vrain-Husson, et on le disait, 8 jours plus tard, la mobilisation des syndicats. Une journée qui s'annonce peut-être, on ne le sait pas non plus, mais peut-être plus massive effectivement en termes de mobilisation.
Oui, alors on a affaire effectivement à deux types de mobilisation vraiment différentes. Les personnes qui se mobilisent le 10 rejettent plutôt les mobilisations classiques de défilés, de grèves et de défilés dans la rue. Donc c'est pour ça que pour reprendre votre terme, c'est un mouvement un peu gazeux. On verra le 18, on a affaire à un mouvement qui est beaucoup plus classique, qui risque d'être effectivement assez massif.
Allez, parlons de littérature pour clore ces informés, si vous le voulez bien. Elisabeth Pinault de l'agence Reuters, Sylvain Courage du Nouvel Obs et Séverin Husson de Delacroix, avec la première sélection du prix Goncourt dont le lauréat sera connu le 4 novembre. Première sélection qui vient d'être dévoilée. 15 livres en font partie, dont le très attendu Colcos d'Emmanuel Carrère ou encore La Maison Vide de Laurent Mauvignier, des romans qui marquent la rentrée littéraire. Écoutez Mathieu de Montchalin de la librairie de l'Armitière, c'est à Rouen.
Vous savez, la rentrée littéraire, c'est comme le Festival de Cannes. Vous avez le film d'ouverture. Le film d'ouverture, c'est le titre que tout le monde attend. C'est Emmanuel Carrère, cette année. Et honnêtement, on a bien fait de l'attendre, parce que c'est un excellent roman, qui est un livre à la fois accessible et qui est en même temps une histoire dans l'histoire, une histoire absolument fabuleuse. Et je crois que ça sera un succès, parce que c'est un grand livre, c'est un grand auteur. Peu importe, effectivement, qu'il ait un prix ou pas, ce livre va fonctionner.
Le Goncourt comparé au Festival de Cannes. Pour continuer dans la comparaison, j'ai retrouvé un article du Nouvel Obs de 2021, ça va vous intéresser, Sylvain Courage, qui disait « Les prix littéraires, c'est un peu comme le concours Miss France, les maillots de bain en moins. » Sylvain Courage, le texte n'était pas de vous, je le précise, mais ça me donne envie de vous demander à chacun si vous avez été marqué par la lecture de certains livres ayant reçu le Goncourt. Je ne sais pas qui veut se prononcer.
C'est vrai. Moi, celui qui me vient en tête, j'ai lu L'Anomalie, qui est, à mon avis, l'un des plus gros succès, l'une des plus grosses ventes du Goncourt, d'Hervé Le Tellier. Effectivement, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, un auteur que j'aime beaucoup.
Elisabeth Pinault, est-ce qu'il y a un Goncourt qui vous vient en tête?
Spontanément, Nos enfants après eux, de Nicolas Mathieu. La carte et le territoire de Michel Houellebecq, qui était très préminitoire et qui m'avait marqué à l'époque. Oui.
Sylvain Courage.
Moi, j'ai un souvenir plus ancien, mais ça avait été un énorme événement. C'est quand Marguerite Duras avait reçu le Goncourt. Ça a été un moment vraiment important de la vie littéraire en France.
Voilà, on repart plus dans le passé de ce Goncourt. On peut aussi citer Veiller sur elle. Pour revenir à Emmanuel Carrère, il a déjà remporté par le passé le prix Fémina, le prix Renaudot aussi avec le Goncourt. Ce serait le jackpot pour lui et sa maison d'édition POL. Il ne faut pas oublier, c'est vraiment l'impression que les prix, au-delà de la qualité des ouvrages, ce sont avant tout, aussi des batailles entre éditeurs.
C'est des batailles entre éditeurs parce que l'enjeu commercial est évidemment extrêmement important. Il me semble qu'un Goncourt, c'est en moyenne 500 000
à peu près ventes.
Ouais. Avec parfois des pics. Je pense que L'Anomalie, notamment, est l'une des plus grosses ventes. Mais 500 000 ventes, c'est évidemment sans comparaison avec les ventes moyennes d'un roman en France. Donc la bataille est extrêmement féroce entre éditeurs, oui.
Elisabeth Pinault.
La bonne nouvelle, c'est que les Français continuent de lire et que c'est le prix Goncourt est encore regardé et que à chaque rentrée littéraire, on voit Amélie Nothomb ou Emmanuel Carrère qui racontent des histoires que les gens ont envie de lire sur du livre papier. Hein, j'ai regardé les chiffres, le livre électronique n'a pas remplacé le livre papier en France qui bénéficie. Les librairies indépendantes sont encore une réalité dans notre pays grâce à une politique volontariste qui a essayé de contrer les assauts d'entreprises comme Amazon. Donc c'est encore une réalité. Les enfants reçoivent encore des listes de livres à lire. Hein. On leur demande encore de lire les Misérables ou les Fleurs du Mal. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle.
Est-ce que ça vous surprend, vous ? Que le livre ait toujours encore cette place aujourd'hui, en 2025
Ça me réjouit surtout. Ça ne me surprend pas tant que ça, parce que je pense que rien ne remplace le calme, le plaisir et parfois l'émerveillement d'un livre, surtout en ces temps troublés, et puis avec cette concurrence féroce des réseaux sociaux et de la vitesse de tout ce qui se passe sur les écrans. Le livre apporte évidemment une autre dimension salutaire, et les Français, comme le reste du monde le sait très bien.
Ça me donne envie de vous demander si vous avez le temps de lire autre chose que des livres politiques, Elisabeth.
Je lis surtout des livres qui ne sont pas politiques pour m'évader de ce milieu.
Sylvain, courage.
Et du travail quotidien.
Non, pour rebondir sur ce que dit Elisabeth, malgré les difficultés du secteur de l'édition qui est dont le chiffre d'affaires est plutôt déclinant, le nombre de sorties, le nombre de livres qui paraît à la rentrée littéraire se maintient. Alors, il n'y a pas de progression. On est passé
près de 350 pour cette rentrée de septembre.
Voilà, c'est au total 480, il me semble, parce que en fait la rentrée littéraire, on en parle en septembre, mais il y a plein de livres qui sortent des mi-août.
Avec beaucoup de premiers romans, hein, jeunes veulent toujours écrire, prendre la plume.
Beaucoup
prendre
de petites maisons d'édition qui se créent, donc c'est un secteur effectivement très foisonnant, très créatif, et voilà, qui continue à retrouver son public.
Alors l'une des grandes inconnues, c'est est-ce que l'intelligence artificielle va maintenant écrire une partie des futurs des livres des futurs auteurs, ça reste à
ce qui avait été le cas au Japon il y a quelques années, où l'équivalent du Goncourt, la lauréate, avait avoué justement avoir s'être fait aider de l'intelligence artificielle.
Nous avons organisé une compétition entre ChatGPT et Hervé Le Tellier justement sur une courte nouvelle de 3000 signes, nouvelle policière, avec une phrase de début, une phrase de fin imposée. Et Le Tellier, qui est quand même très brillant, qui est un créateur,
lauréat, on le rappelle,
voilà, et puis de l'Oulipo, donc qui est vraiment dans la création littéraire. Il a écrit une nouvelle très intéressante, mais il a été scotché, vraiment étonné par la qualité de ce qu'avait produit ChatGPT, qui en a fait deux.
C'est pas mal. Mais aujourd'hui, Sylvain Courage, si un lauréat du Goncourt avouait devant tout le monde qu'il s'était fait aider de l'intelligence artificielle, ça ne passerait pas.
Ah, ce serait pas dans l'épure de l'image de l'écrivain qu'on a en France, quand même, qui doit recevoir l'inspiration d'on ne sait où et suer sur son manuscrit dans sa mansarde. On a quand même toujours un peu cette mythologie un peu romantique de l'écrivain, mais ça viendra. Je veux dire, il y aura des écrivains qui créeront à partir de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'interdira pas de créer.
Ça nous ramène aussi, parce qu'on parlait des succès de la rentrée, Emmanuel Carrère en tête, sur 300 et quelques romans qui sortent, beaucoup ne seront pas des succès commerciaux. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt aussi.
Ça renforce l'importance des prix littéraires, c'est que l'édition, les éditeurs, leur chiffre d'affaires dépend de quelques livres et de moins en moins de livres. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de livres qui sont publiés qui ne trouvent pas leurs lecteurs. Donc c'est quand même ça qui est un petit peu inquiétant. Et donc il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus pour vivre de sa plume. Et
d'où l'importance pour vous de ces prix littéraires ?
Ils participent de la sélection des ouvrages qui vont l'emporter, mais avec une certaine injustice. Justice, hein, parce que là, le Goncourt en sélectionne 15. Est-ce que sur 480 livres, il n'y a que 15 livres qui vaudraient le coup ?
Ça rejoint ce qu'on disait sur la bataille aussi
et donc,
des maisons d'édition.
Donc, ce qu'on leur reproche souvent au prix littéraire, c'est d'être quand même assez aveugle et de répondre déjà à des plans préétablis par les éditeurs qui poussent un livre, qui vont intriguer, qui appellent tous les jurys. Hein. C'est une bataille qui a souvent été décrite, mais c'est une bataille
qui commence des mois avant,
de lobbying, littéralement. Et donc, il y a des aspects des prix qui sont un peu moins reluisant.
Séverin Husson, sur l'aspect commercial, on parlait de la rentrée de septembre, il y a aussi depuis quelques années la rentrée de janvier, on voit effectivement la multiplication des prix aussi, parce qu'on parle du Renaudot, du Goncourt, du Fémina, d'autres aussi, on peut citer le prix de Flore par exemple, mais aujourd'hui il y a des dizaines et des dizaines de prix des pour justement de prix. Essayer de faire vivre ces livres comme ça, et certains qui
absolument, et tout sont au long de l'année, mis en avant. Et tout au long de l'année, après ce qui est intéressant, c'est de regarder les prix qui sont gagnés par des premiers romans. Mm-hmm. Là, vous citiez Emmanuel Carrère qui en a gagné un certain nombre de prix. Voilà, ce qui est bien, c'est quand les jurys décernent des prix à des auteurs qu'on connaît moins. Dans la sélection du Goncourt, il me semble qu'il y a quelques premiers romans, Natacha Appanah, mm-hmm. peut-être d'autres que j'oublie, mais il y a quelques premiers romans. Voilà, on attend. En tout cas, moi, j'attends d'un jury qui nous surprenne.
Avec des prix aussi qui sont aujourd'hui dédiés à ces premiers romans et à ces nouveaux écrivains. Sylvain Courage, on parlait de la mise en avant aujourd'hui de l'œuvre littéraire de ces livres. Dans le Nouvel Obs, vous mettez souvent en avant justement les bonnes pages, comme on dit, des
oui, bah là, on, par exemple, on a fait une couverture avec Emmanuel Carrère, qui collabore souvent dans nos pages. Mm-hmm. C'est vrai que nous, on a des 25 pages de culture et que pour la rentrée littéraire, on investit beaucoup ce champ-là et qu'on a une tradition. Mais je pense que c'est le cas de la plupart des journaux. Si vous faites le tour des rédactions, ça reste vraiment un domaine important du journalisme. Et je pense que c'est aussi une marque de la culture française. C'est cultivé par tous les titres.
Et ce sera le mot de la fin ce soir dans Les Informés. Vous gardez la main, Sylvain Courage, à la une du Nouvel Obs cette semaine.
À la une du Nouvel Obs, anatomie d'une crise de régime.
Avec François Bayrou
qui s'éloigne.
Et la chute annoncée de son gouvernement. Séverin Husson, que peut-on lire à la une de La Croix demain ?
Nous, on a fait une enquête sur ce que dit l'Église catholique de la crise actuelle. On ne l'entend pas beaucoup, mais sur le terrain, beaucoup de gens se mobilisent.
Qu'est-ce qu'elle en dit, justement, en quelques mots ?
Eh bien, encore une fois, elle est relativement silencieuse. En tout cas, les hiérarches de l'Église, les évêques sont relativement silencieux. Mais il y a beaucoup de laïcs qui se mobilisent dans leurs associations ou dans des partis politiques pour essayer de trouver, créer du lien et trouver des solutions.
Elisabeth Pinault, je ne vous demande pas le titre des prochaines dépêches de l'agence Reuters. Nous verrons bien cela au fil des jours. Hier soir, sur ce plateau, Sylvie Pierre-Brossolette nous disait qu'en 50 ans de carrière politique, elle n'avait jamais vu une telle situation. En quelques 25 ans, pour vous, est-ce que vous diriez la même chose ?
Je suis d'accord avec ma consoeur. On est vraiment dans une situation inédite, assez difficile à analyser, et avec cette impression que nos institutions ne sont pas faites pour ça. Voilà, on avait une 5e République avec une alternance, et là, on est vraiment face à l'inconnu, et c'est à la fois très intéressant et quand même un tantinet inquiétant.
Un saut dans l'inconnu avant ce vote de confiance, donc le 8 septembre, ce sera lundi prochain. Merci à tous les trois d'être venu. Merci aussi à tous ceux qui ont préparé et réalisé cette émission. À réécouter sur le site et l'appli France Info Les Informés, qui reviennent demain matin à 9h. Très bonne soirée.